Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Gaël Vitaly Derrien. Vous êtes une jeune doctorante en physique. Vous êtes également porteuse d'un handicap. Est-ce que ça vous dérange si on explicite ?
Ah non, pas du tout. En fait, moi, j'ai une myopathie. J'ai une forme assez rare de cette maladie. Et là, je suis en voie de rémission. Sur ce handicap qui est un handicap moteur. Donc j'ai quelques séquelles qui sont liées plutôt à la force physique et à l'endurance. Here I go out to see again.
The sunshine fills my head. J'aimerais que vous me portiez un témoignage de la manière dont ce handicap a perturbé votre parcours scolaire et universitaire. Peut-être qu'on peut commencer... Après le bac, peut-être ?
Oui, donc jusqu'au bac, pour moi, ça a été assez facile. J'avais des aménagements pour les examens. Quand j'ai commencé dans le supérieur, là, c'était plus compliqué. J'ai commencé par une prépa, donc une classe préparatoire aux grandes écoles. Et là, donc déjà, en première année de prépa, l'infirmière scolaire ne m'a pas crue. Elle est allée dire à tous mes professeurs que j'étais une menteuse et que j'inventais mon handicap. Donc ça a été très très dur au début dans mon entrée dans le supérieur. Et une fois que ce problème a été réglé, j'ai vu avec mes professeurs que les aménagements que j'avais eus aux examens au bac n'étaient pas transposables.
Alors, de quel genre d'aménagement s'agit-il ? C'est qu'on a plus de temps pour une épreuve ou...
C'est ça. Alors, il y avait soit plus de temps pour les épreuves liées à la force en fait, nécessaire dans les bras pour écrire ou l'utilisation d'un ordinateur. Et là, c'était assez compliqué avec tous les enseignements mathématiques. C'était dur de prendre en main des nouveaux outils en parallèle des enseignements.
Donc, vous aviez plus de temps pour faire le devoir de maths, par exemple ?
Exactement, donc ça jusqu'au lycée, mais en prépa, en fait, le but de la prépa, c'est de préparer au concours aux écoles d'ingé, qui sont des épreuves toute la journée pendant plusieurs semaines. Et vu que mon problème, c'était justement la fatigabilité, en fait, se donner plus de temps, ça m'aurait fait commencer les concours à 6h du matin et finir à 20h pendant un mois.
Donc là, il n'y a pas d'aménagement possible ?
Non.
Les écoles d'ingénieurs ou les écoles supérieures ne proposent pas d'aménagement ?
Pas dans ce cas exactement. En fait, les aménagements, c'est en général une liste assez précise. Et si on ne rentre pas dans les cases, c'est un petit peu dur à mettre en œuvre. Les aménagements, ils sont encadrés par la loi et normalement, ils sont censés être donnés dans la mesure du raisonnable. Et là, tout le monde comprend ce qu'il veut à raisonnable.
Donc, vous avez passé les concours ? Entre guillemets, comme tout le monde.
Exactement, mais j'ai été préparée, du coup, comme tout le monde. Donc l'entrée dans le monde de l'enseignement supérieur a été assez difficile. C'était un sacré baptême du feu pour moi.
Pour dire la vérité, même pour les étudiants avec beaucoup, beaucoup de guillemets normaux, c'est un fameux marathon, hein ?
Oui, donc à l'époque, moi, je ratais aussi pas mal de cours, donc tous les mois, parce que j'avais des traitements à prendre à l'hôpital. Et donc, je devais prendre les cours pour amener à l'hôpital, après rattraper, en plus d'une certaine fatigabilité. Donc, c'était les années de prépa assez difficiles là-dessus. Et surtout, c'était en décalage complet avec l'école d'ingénieurs derrière, où on a un accompagnement beaucoup plus personnalisé et beaucoup plus serein. Donc la prépa, c'était extrêmement dur pour qu'ensuite, en école d'ingénieur, ce soit bien plus aménageable.
Donc quand on rentre dans l'école, on est accompagné.
Oui, oui, oui. Enfin, en tout cas, dans l'école que j'ai faite, on avait un chargé de mission handicap qui était très au courant et très présent. Et j'avais des aménagements donc, pour les cours. Ensuite, pour ce qui est de la vie étudiante, puisque c'est aussi ça, les études supérieures, là, c'était plutôt à moi de voir. Et j'étais très en décalage avec mes collègues, puisque des personnes en situation de handicap, en école d'ingé, il n'y en a pas beaucoup. surtout des filles.
Et alors, comment vous vivez ça avec vos camarades, vos amis? Ça se passe très bien ou est-ce qu'ils vous aident en général ou au contraire, vous ressentez un peu d'un autre monde?
En première année de prépa, vu qu'il y a cet aspect de compétition, c'était un peu dur, surtout que j'ai un handicap invisible. Donc j'avais des collègues qui étaient un peu mal à l'aise, qui ne me croyaient pas trop. Sauf que à partir du moment où j'ai commencé à avoir des crises ou des symptômes très visibles, là, j'ai eu tout de suite plus de sympathie. Et par contre, après, en deuxième année de prépa, là où normalement c'est plus compétitif, mais dans mon cas, ça ne l'était pas. Tout le monde s'entraidait et j'avais beaucoup d'aide pour rattraper les cours. Et je me souviens aussi, donc en école d'ingé, j'avais donc toujours des traitements assez lourds, mais plus à l'hôpital, mais chez moi. Et là, tous mes copains venaient. J'avais par exemple une perche pour perfusion et à Noël, on mettait des guirlandes dessus.
Alors, vous êtes rentrée dans quelle école ?
J'ai fait ce qui était à l'époque Central Paris.
Ça a entraîné pour vous un déménagement ou...
Non, en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que donc, les écoles d'ingénieurs, on les a au concours, on ne choisit pas spécialement. Et finalement, j'ai eu une école qui était à 8 km de chez moi, donc c'était très facile pour moi d'y aller.
Alors ensuite, après l'école d'ingénieur, vous avez commencé un doctorat.
C'est ça, donc un doctorat à l'université Paris-Saclay. Et autant en école d'ingénieur et même avant, je ne me rendais pas compte de l'impact du handicap, si ce n'est plutôt les aménagements aux examens ou rattraper les cours. Et c'est pendant le doctorat où là, j'ai ressenti cet aspect vie professionnelle, vie privée. Et j'ai eu la chance d'avoir un contrat doctoral handicap, ce qui me permettait, en fait, dans le contrat, d'avoir une certaine adaptabilité, d'avoir droit à des aménagements. Et le fait que ce contrat il soit là en amont, ça permettait, quand il y avait des problèmes, des hospitalisations, etc., d'avoir la souplesse et de faire la thèse, d'envisager la thèse avec cette sérénité.
Est-ce que ça permettait de prendre un peu plus de temps pour soutenir sa thèse ? Il faut que je rappelle à nos auditeurs que normalement, officiellement, un doctorat dure 3 ans. Et que souvent, ça dépend des disciplines, mais souvent, c'est un peu plus que 3 ans, on trouve des solutions temporaires.
Moi, j'ai mis 3 ans et 3 mois à la fin du doctorat. En fait, le contrat était de 3 ans et c'était écrit dans le contrat qu'on pouvait avoir une extension. Donc, à la fin du contrat, on me l'a proposé et je l'ai prise joyeusement, puisque ça m'a vraiment permis de faire une bonne thèse, une thèse dont je suis fière, et ça a permis de compenser des retards qui avaient pu être accumulés pendant le doctorat. Et ce qui est important de noter, c'est que ces retards, ils ont été accumulés parce que j'ai pu prendre soin de ma santé pendant la thèse, et c'est vraiment pendant la thèse que mon handicap s'est stabilisé et que je suis passée en voie de rémission. Donc c'est vraiment important. And I need a friend, oh I need a
friend. To make me happy. Deux mots sur cette thèse. C'est une thèse de physique. Est-ce que c'est physique expérimentale, hein? Est-ce que ça, c'est, vous faites pas de la théorie des cordes?
Non.
Voilà. Et donc, ça a entraîné parfois des choses qui sont matériellement difficiles à transporter. Des haltères, ou je ne sais quoi.
Alors oui, c'est une thèse de physique expérimentale. Et donc, pendant la thèse, on a monté une manip nouvelle, et ensuite on s'en est servi pour avoir des résultats sur des matériaux. C'était une manip d'optique, donc il y avait beaucoup d'instruments de précision. Bon, je suis en voie de rémission, mais quand il s'agit de porter des instruments, j'étais contente de compter sur mes collègues. Sinon, l'optique, comme c'est de la précision, j'avais pas en termes vraiment de matériel et de trajet optique, là j'avais pas besoin d'aide, mais c'était plutôt sur tout ce qui est mesure, où là, ça pouvait être pertinent d'avoir de l'aide des collègues.
Mais il s'agit d'optique, entre guillemets, classique, c'est l'optique quantique ?
Non, optique linéaire, et nous, on regarde l'interaction entre la lumière et la matière. Donc on a monté la manip optique pour à la fois exciter nos matériaux et ensuite mesurer.
Alors la thèse a été soutenue, vous étiez contente, j'imagine.
Oui, oui, j'ai beaucoup pleuré.
Et en mettant la suite des événements, qu'est-ce qui va se passer ?
Donc là, j'ai soutenu ma thèse fin mai, et comme on a monté une manip expérimentale nouvelle pendant la thèse, on a pu la breveter 24 heures avant la soutenance, et j'essaye de donner une vie à cette manip-là pour qu'elle profite à la communauté. Et là, je suis en post-doctorat pour faire de la maturation technologique.
Dans le même labo ?
Oui, sur la même manip pour que cette manip de laboratoire puisse servir à d'autres labos avec une plus grande portée.
Concrètement, ça veut dire quoi? Comment vous faites?
Donc concrètement, l'idée c'est que notre grosse manip sur une table de 6 mètres carrés de plusieurs tonnes, on essaye de réduire l'encombrement et de s'entendre avec des industriels, par exemple de la métrologie, pour la commercialiser ou la rajouter à un équipement déjà existant. Donc c'est pour moi, montage d'une nouvelle manip, caractérisation, et en même temps pour les industriels, de la communication avec eux, de l'étude de marché. Tout ça, bien sûr, en parallèle d'une recherche que je continue à mener.
Donc vous avez des contacts directs avec des industriels ?
Oui, on fait des études de marché où nous, on va parler aux industriels et on essaye de voir s'ils sont intéressés par cette technologie et par le portage.
Chose qui m'intéresse dans ce que vous dites, c'est que vous dites toujours « on » ou « nous », vous dites jamais « je ».
Ah oui, c'est vrai. C'est un gros défaut que j'ai, puisque c'est la manip, j'étais pas toute seule au début, mais je l'ai beaucoup portée. C'est mon nom en premier sur le brevet. Et c'est vrai que nous, les scientifiques, on est beaucoup aidés par l'université dans le portage de la technologie. Mais c'est vrai que... Oui, c'est vrai que je suis la seule chercheuse sur cette manip à faire le portage technologique.
Décrivez-moi en quelques mots, comment c'est une journée typique au labo?
Par exemple, si je travaille sur ma manip, alors je dois voir de quoi j'ai besoin. Donc il y a de la budgétisation, de la recherche de matériaux et de...
Donc vous cherchez les finances ou pas?
Non, je ne cherche pas de finances. Les finances, je les ai. Et moi, je cherche à avoir des nouveaux composants et des nouveaux devices pour améliorer la technologie. J'ai des réunions avec les industriels pour... plaider un peu ma technologie, voir si elle est en accord avec ce qu'ils proposent. Et en même temps, je fais de l'enseignement donc avec des étudiants et de la recherche, rédaction d'articles. Et j'utilise toujours la manip que, bien sûr, j'ai montée en thèse pour produire des résultats scientifiques.
Alors, vous avez parlé d'enseignement. Est-ce que le fait que vous soyez handicapé interfère avec votre enseignement ?
Non, justement, j'essaye d'en faire une force. Donc déjà, mon handicap, je m'en suis rendu compte en thèse, c'est assez différenciant et ça m'a permis de m'engager au niveau associatif. Et cet engagement, il s'est traduit par aussi des formations au niveau associatif que j'ai moi-même procurées. Et en retour, le fait de former au niveau associatif, ça m'a aidé dans mon enseignement académique.
Mais cet engagement associatif, il est dans le cadre de votre contrat doctoral ou pas ?
Non, c'était vraiment bénévole et personnel.
Quel genre d'association ?
Je suis dans une association de jeunes en situation de handicap qui s'appelle 100% en dynamique.
Pas forcément scientifique ?
Non. Après, dans l'asso, on a une communauté de jeunes scientifiques en situation de handicap. Et moi, je fais surtout du plaidoyer. On fait beaucoup de formations dans l'association pour tous les jeunes en situation de handicap, pour gérer des situations du quotidien. Et moi, c'est surtout l'enseignement supérieur qui m'intéresse.
Et toutes sortes de handicaps ?
Oui, tout handicap confondu.
Alors, donnez-moi quelques exemples de handicaps plus difficiles que d'autres.
Typiquement, les handicaps invisibles sont plus difficiles à appréhender par les autres personnes, nos interlocuteurs. Les handicaps qui vont être plutôt cognitifs ou psychiques vont créer beaucoup de confusion. Par exemple, le trouble de l'attention, c'est un trouble qui va créer du décrochage et des pertes d'attention. Et les interlocuteurs peuvent prendre ça pour du désintérêt ou même penser que la personne est juste bête. Donc c'est terrible ce genre de trouble pour faire comprendre aux personnes à qui on s'adresse que c'est juste un handicap et qu'on est une personne parfaitement compétente par ailleurs.
Mon père était sourd et c'est aussi très difficile quand on est sourd, parce que les gens ne comprennent pas immédiatement qu'on est sourd. Et en ce genre de conclusion, il doit être bête celui-là.
Oui, parce qu'il n'écoute pas, il fait répéter, etc. Et le fait d'être dans cette communauté de jeunes en situation de handicap, ça m'a fait prendre des réflexes qui sont utiles, même dans ma vie de tous les jours. Donc pour les personnes sourdes, en général, pour se faire comprendre, c'est bien d'articuler, de parler plus lentement. Et en fait, Ça profite à tout le monde si j'articule et que je parle plus lentement. Pareil pour les personnes qui ont le trouble du spectre autistique, c'est beaucoup mieux d'être clair et concis dans nos explications. Et ça aussi, tout le monde gagne à être clair et concis.
Et pour les non-voyants ?
Pour les personnes déficientes visuelles, ça c'est un réflexe aussi que j'ai pris, c'est que je leur dis toujours où je suis par rapport à eux et j'essaye de vraiment décrire ce qu'on voit quand ça a de la pertinence. Et par exemple, pour les figures scientifiques dans les articles, de décrire ce qui est pertinent et quel message on veut transmettre, en fait ça va donner une autre dimension à notre propos. C'est enrichissant pour nous. Typiquement, dans la communauté handicap, on a un dicton, c'est nécessaire à certains, mais utile à tous. Et ça illustre parfaitement ce dont on vient de parler.
Alors, quelle est la suite des événements ? Vous allez devenir, vous voulez être universitaire ? Vous voulez, quel est votre rêve de carrière ?
Mon engagement pendant le doctorat, ça m'a fait prendre conscience de difficultés qu'il y a dans le monde universitaire, que ce soit la place des jeunes, la place des personnes en situation de handicap ou même la place des femmes. Et c'est un engagement que j'aimerais bien poursuivre. Pour moi, la science, elle est bénéfique pour la société, mais il y a des échanges à mettre un petit peu plus en place entre les deux pour engager plus de personnes en situation de handicap, plus de femmes en science. Et j'aimerais bien donner à ma carrière cette coloration « science pour les affaires publiques ».
Est-ce que vous aimez la musique ? Quelle musique vous me recommanderiez pour illustrer ce qu'on vient de raconter ?
Je ne sais pas si ça illustre, mais il y a une artiste que j'aime beaucoup. C'est une artiste qui vient des Comores, je crois. Elle s'appelle Imani et elle a fait récemment des reprises de beaucoup de musique pop et j'ai beaucoup aimé. It's a wonderful life. It's a wonderful life.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Canal Académie.